La douleur serait le premier motif de consultation. Un Français sur trois souffrirait de façon chronique, quelle que soit son origine. La douleur chronique, justement, devient rapidement elle-même une maladie à côté de la maladie. Le sociologue David Le Breton s'intéresse depuis longtemps à cette question de la douleur qui déchire l'existence et qui épuise. Il publie un nouvel ouvrage sur le sujet. Il est mon invité dans un instant, avec à ses côtés le rhumatologue Serge Perrault, président de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Ils répondront ensemble à vos messages et vos questions qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, évidemment, la découverte importante de 7 nouvelles exoplanètes.
Oui, et une découverte franco-belge, il est bon de le rappeler, qui n'a pu échapper à personne depuis son annonce fracassante hier par la NASA. Pourquoi ces 7 planètes de taille terrestre sont-elles si intéressantes ? On en discute avec un des co-auteurs de la détection, l'astrophysicien Franck Celsis.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui à l'impact de la pauvreté sur les cancers. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré, préparée par Lucie Sarfati, avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La douleur chronique, ce sera donc dans un instant le dossier de notre tête au carré avec mes invités que je salue, le sociologue David Le Breton et le rhumatologue Serge Perrault. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
David Le Breton, comment tenir et se réinventer face à la douleur? C'est l'objet de votre essai qui sort chez Métellier. C'est aussi quoi? Une façon d'envisager autrement ce qui ne pourrait que détruire la personne?
Ah bah, la douleur nous force à résister. De toute façon, il faut élaborer des stratagèmes. Alors évidemment, en allant d'abord rencontrer les médecins, mais quand ils n'ont pas la réponse, puisque la douleur chronique est une douleur justement qui laisse la médecine dans une impuissance, en tous les cas provisoire. Donc il faut aussi que le patient s'aide lui-même à travers des stratégies propres, des rituels intimes ou le recours à d'autres thérapeutes.
Serge Perrault, la douleur, c'est vraiment le premier motif de consultation des médecins?
Oui, alors la douleur, c'est le premier motif de consultation, que ce soit en médecine générale, en rhumatologie, dans la plupart des spécialités. Aujourd'hui, on parlera de douleur chronique, qui, elle, est différente, qui, elle, est une douleur plus présente, plus continue et qui envahit la vie, qui n'est pas la douleur de tous les jours.
Ouais, on en parle donc dans un instant avec déjà des témoignages pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et les réseaux sociaux. Une toute petite étoile, pas plus grosse que Jupiter, et 7 planètes rocheuses qui tournent autour. Le cortège exceptionnel d'exoplanètes de l'étoile Trappiste 1 est à la une de la science aujourd'hui.
C'est le premier système où on a autant de planètes telluriques, on en a autant dans la zone habitable, où on en a autant qui pourraient avoir de l'eau liquide et de la vie. Et c'est surtout le premier où on a ce genre de planète pour lequel une étude détaillée est possible.
Et la voix de l'un des découvreurs de ces nouveaux mondes, le Belge Michael Gillon. Toutes les planètes découvertes autour de cette étoile ont des tailles et des compositions voisines de notre Terre. Certaines pourraient même être gorgées d'eau liquide, une aubaine donc pour le monde de l'astronomie qui s'agite dans tous les sens depuis hier soir 19h et depuis cette publication dans la revue Nature. Franck Celsis, bonjour à vous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous pour nous parler évidemment de cette découverte. Vous êtes co-auteur de ces travaux, astrophysicien et directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Bordeaux. Philippe Hénarejo est également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Franck Celsis, on peut lire et entendre partout dans la presse, d'abord depuis hier, que la NASA a découvert cette exoplanète exceptionnelle. C'est un peu agaçant quand même cette récupération, non ?
Alors agaçant, je sais pas, mais c'est vrai que je dirais le cœur de l'équipe de recherche est en Belgique. Mmh. C'est un projet qui inclut énormément de francophones, ce qui est assez rare pour être signalé, donc des Belges, des Suisses, des Français expatriés. Et il y a une contribution effectivement américaine. Et il y a un instrument qui est un télescope spatial qui s'appelle Spitzer, qui est un instrument de la NASA, qui a joué un rôle déterminant pour compléter l'étude, mais il faut savoir que le système planétaire, il a été découvert avec un télescope conçu et imaginé à l'université de Liège dans le groupe de Michael Gillon, qu'il est installé au Chili sur un site de l'Observatoire européen de l'ESO, et bien sûr on collabore avec nos collègues américains. Ce sont eux hier soir qui ont accueilli la conférence de presse, mais dire que la NASA a trouvé, oui, ça c'est un petit peu agaçant.
Alors Philippe et Narejos, cette planète qui tourne autour d'une petite étoile, elle mérite vraiment tout le raffut médiatique qu'on peut voir et lire et entendre depuis hier ?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, la NASA a sorti son
tambour.
Son tambour, comme d'habitude, et c'est le même. Hein, c'est, on vous fait l'annonce qu'il va y avoir une annonce extraordinaire. Donc, évidemment, ça suscite d'énormes attentes, parfois un peu inconsidérées. Il n'en reste pas moins que, bon, une fois qu'on sait de quoi il s'agit, c'est un travail intéressant, c'est un travail important. Mais bon, c'est pas, voilà, il faut dégonfler les roulements de tambour pour bien savoir de quoi on parle. En fait, oui, c'est une étude qui est vraiment intéressante, c'est une découverte qui est intéressante pour la recherche en exoplanètes, qui sont ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil.
Alors, Franck Celsis, décrivez-nous un petit peu ce système Trappiste 1 et ces 7 planètes qui tournent autour.
Oui, alors, juste pour dire, moi, je dégonflerai pas le roulement de tambour parce que pour moi, il est vraiment important. Par contre, je le déplacerai et j'essayais de, on pourra, si vous voulez en parler, j'essaierai de relativiser un peu les questions qui traitent de la vie ailleurs, de l'habitabilité, pour se rendre compte que ça, ce sont les aspects les plus spéculatifs. Mm-hmm. Et par contre, pour revenir aux caractéristiques que l'on étudie aujourd'hui sur ces planètes, et qui sont effectivement d'une richesse assez extraordinaire.
Mais alors, pour qu'on puisse vous suivre un petit peu, décrivez-nous quand même ce qui a été découvert.
Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, c'est comme cela a été dit, un cortège de 7 planètes autour d'une toute petite étoile. Alors l'étoile, c'est la clé. Hein. C'est cette étoile qui, par sa toute petite taille et sa faible luminosité, nous permet d'avoir des conditions d'observation exceptionnelles sur des planètes qui finalement sont petites par rapport à la plupart des exoplanètes qu'on connaît. Donc c'est une étoile qui fait 8% de la masse du Soleil, qui fait la taille de Jupiter, ce qui est tout petit pour une étoile, ça fait juste 12 fois le rayon de la Terre. Elle a une luminosité extrêmement faible, 0,05% de la luminosité du Soleil. Donc quand on la regarde, si vous voulez, d'une certaine façon, on n'est pas ébloui, comme on l'est souvent quand on regarde des étoiles de type plus solaire, et ça nous permet de détecter des choses plus fines. Et quand on s'intéresse, on a un intérêt effectivement très particulier pour les planètes qui sont de dimension et de température terrestre. Et quand ce sont ces planètes-là qui nous intéressent, quand ce sont ces planètes-là qu'on voudrait ne pas juste détecter, mais aussi pouvoir dans le futur caractériser, eh bien une des idées, c'était de les chercher autour de ces toutes petites étoiles, d'où le projet démarré avec nos collègues belges et suisses d'essayer de détecter des planètes autour de ces toutes petites étoiles qu'on appelle des naines ultra-froides. Et Trappiste 1 a été la première autour de laquelle on a trouvé des planètes. Donc ça, c'était l'an dernier. On a commencé à en trouver 2, plus une troisième dont les caractéristiques n'étaient pas déterminées. Donc on les a trouvées par une méthode qu'on appelle les transits, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être bien aligné avec ce système. On a la chance que le plan des orbites est sur la ligne de visée. Donc les planètes passent devant le disque de leur étoile après chaque orbite. Et dès lors qu'on savait qu'on était dans cette configuration, on a pu demander du temps sur d'autres télescopes dans l'espace, cette fois notamment le télescope spatial Spitzer. Et on a pu obtenir, chose exceptionnelle, 21 jours d'affilée de suivi de cette étoile. Et quand les données sont arrivées, on avait dedans 34 transits planétaires et qu'il a fallu un petit peu, il a fallu résoudre le puzzle, comprendre combien il y avait de planètes dans le système. Et au final, on sait qu'on a un système avec au moins 7 planètes, dont 6 sont parfaitement, enfin, caractérisées en termes d'orbite et de rayon. Une septième dont il faudra raffiner les mesurements. Les mesures, et voilà, 7 planètes telluriques, à peu près toutes de la taille de la Terre, dans un système très très ramassé sur lui-même, tout petit en termes d'extension des orbites, qui ressemble plus par certains côtés au système des satellites de Jupiter, hein, vous savez, Io, Europe, Ganymède et Callisto, finalement c'est autant un analogue du système des satellites de Jupiter que du système solaire, et avec bien d'autres caractéristiques qui pour nous sont exceptionnelles, notamment en termes de poursuite des observations.
Juste un mot, Philippe, ce nom de Trappiste 1, c'est un coup des Belges, c'est ça?
Oui, bien sûr, hein, parce que c'est leur télescope qui s'appelle comme ça, c'est un télescope automatique, il y en a 2, un dans l'hémisphère nord et un au Chili, comme ça a été dit, ce sont des télescopes de 60 cm, c'est pas des très gros télescopes en termes de diamètre, mais par contre, ils mesurent très très bien la variation de luminosité de chaque étoile pour voir si des planètes passent devant ou non.
Alors, Franck Celsis, vous avez dit que vous vouliez dégonfler un petit peu l'histoire de la recherche de la vie. Qu'est-ce qui est réellement intéressant de ce point de vue-là dans ces 7 planètes?
Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de recherche de la vie, c'est que, en fait, on ne sait pas trop comment la chercher. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on ne connaît pas bien les origines de la vie, on connaît même ça très mal, c'est très mystérieux. Une des questions qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui fait que la Terre a eu cette capacité de voir la vie y émerger et y perdurer. Pourquoi Vénus et Mars ne sont pas dans ce cas-là? Donc tout ce qu'on a essayé de comprendre jusqu'à présent vient de la comparaison de ces 3 planètes. On pourrait ajouter Mercure, mais Mercure n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas d'eau, n'a pas de volatiles. Donc c'est en comparant Vénus, la Terre et Mars qu'on a commencé à se faire une idée de qu'est-ce qui peut-être faisait de la Terre une planète, avec beaucoup de guillemets, habitable. Mais on est à un stade très très primitif de cette compréhension. Et effectivement, la Terre a été transformée par le vivant. On a une atmosphère riche en oxygène qui est produite par la vie, qui existe depuis à peu près la moitié de l'histoire de la Terre, depuis 2,5 milliards d'années. Donc c'est vrai que si un observateur extérieur regarde la Terre, il va voir qu'il y a une atmosphère riche en oxygène. Et nous, on sait que cet oxygène vient de la vie. Est-ce que cet observateur extérieur comprendrait que c'est là une signature de vie? On ne sait pas. Donc tout ce qu'on spécule, on le fait à partir de ces trois planètes du système solaire. Avec déjà Proxima B l'an dernier, avec les sept planètes de Trappiste, on va pouvoir étendre cet échantillon et puis finalement commencer sérieusement à comprendre ce que sont les planètes telluriques, les planètes comme la Terre, comment elles se forment, quelles sont leurs diversités, leurs variétés en termes de composition, de climat, d'atmosphère. Et c'est ça la richesse de Trappiste, c'est que premièrement, contrairement à beaucoup d'autres systèmes d'exoplanètes telluriques où on n'a que les rayons, là, on a aussi une contrainte sur la masse des planètes, parce que comme ce système est très ramassé, les planètes interagissent gravitationnellement entre elles. Elles n'ont pas des orbites régulières, elles accélèrent, parfois elles ralentissent, ce qui nous permet de déduire la masse de chacune de ces planètes. À l'heure actuelle, on a fait ça avec 21 jours d'observation Spitzer. Les barres d'erreur sont encore importantes, mais ça va se raffiner au cours du temps. Et on a déjà l'impression, notamment sur l'une des planètes, qui est la planète F, que sa densité indique qu'elle est riche en eau.
Ah oui, donc la question de l'eau liquide, elle est cruciale, évidemment.
Bien sûr, oui. C'est-à-dire que, à nouveau, l'analogie avec le système des satellites de Jupiter, ce sont des satellites glacés qui sont composés à peu près d'autant de glace que de roche. Est-ce que on est plutôt dans des planètes vraiment rocheuses avec pas d'eau ou très peu d'eau, comme la Terre, parce que finalement la Terre n'a que 0,1% de sa masse en eau, ça ne se voit pas dans la densité de la Terre. C'est une goutte d'eau sur un caillou de la taille d'une orange, si vous voulez, en comparaison. Là, si la densité de la planète F se confirme, on aurait une planète où il y aurait une énorme quantité d'eau. Et comme cette planète-là, elle a une insolation qui est comparable à la Terre, eh bien, dans ce cas-là, cette eau, elle va se retrouver, au moins à certains endroits, voire sur toute la planète, à l'état liquide. Et ça, c'est une première étape, mais pourquoi on cherche des planètes autour de petites étoiles? Bien sûr, peut-être qu'on pourrait dire on préférerait trouver des cousines de la Terre qui sont des planètes qui orbitent autour d'un soleil, d'une étoile similaire au soleil. On va autour des petites étoiles parce que là, on sera dans des conditions pour, à partir de la fin de l'année prochaine, avec le télescope spatial James Webb, pouvoir vérifier si ces planètes ont des atmosphères ou non et détecter certains des constituants atmosphériques. Donc on va vraiment faire de la planétologie comparée. On va comparer ces planètes à celles qu'on a dans le système solaire. On va comparer ces planètes entre elles. Pourquoi est-ce qu'elles auront des compositions similaires? Est-ce qu'on verra des différences en fonction de la distance à leur étoile? Et on va passer de trois planètes qui nous ont permis de construire notre savoir en termes de sciences planétaires à trois planètes, plus 7, plus Proxima B, et puis plus toutes les autres qu'on va trouver, tous les autres Trappistes qu'on espère trouver.
Allez, Franck Celsis, un dernier mot, Philippe Hénarejos, pour conclure sur cette découverte.
Tout a été dit. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement la recherche d'éléments de vie, d'habitabilité, c'est encore très hypothétique, enfin très très spéculatif, y compris dans la définition de ce que les astronomes appellent la zone habitable. Donc il est très important d'avoir ces planètes-là qui sont, je le rappelle, autour d'étoiles proches. Enfin, celle-là, Trappiste 1, c'est proche 40 années-lumière, 39 années-lumière. Proxima B, c'est 4 années-lumière, 3. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement les observer peut-être avec le JWST, qui est un télescope spatial qui part normalement dans l'espace l'an prochain, mais aussi avec les télescopes de génération suivante, avec d'autres instruments. Et ça, les informations que nous avons sur les exoplanètes aujourd'hui, elles sont très 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 parcellaires. On va pouvoir commencer à compléter et à essayer de comprendre ce qu'on voit, à essayer de voir si les spéculations qu'on fait sur l'habitabilité sont exactes et à progresser dans cette quête d'une vie ailleurs quand même.
Merci beaucoup en tout cas, Franck Celsis. Je rappelle que vous êtes co-auteur de cette publication dans Nature. On pense avoir plus sur Ciel et Espace, justement, hein, Philippe, avec un article et puis une bande dessinée qui est très chouette,
qui est formidable.
Voilà, pour observer la constellation du Verseau.
C'est qui nous a fait ça et on l'a publié. Elle est longue, mais elle décrit très bien cette recherche.
Elle la vulgarise,
c'est vraiment très beau.
Voilà, c'est sur le site ciel-espace.fr. Merci beaucoup, Franck Celsis.
Merci à vous.
Et Axel, à demain.
À demain.
Et notre dossier sur la douleur dans un instant.
J'ai de l'or, j'ai de l'or, j'ai de l'or.
J'ai de l'or, High Cowboy.
La tête au carré sur France Inter.
Et la douleur, thème donc de notre dossier avec mes deux invités pour en parler, répondre à vos messages, le sociologue David Le Breton, le rhumatologue Serge Perrault. David Le Breton, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg et donc vous arrivez avec ce nouvel ouvrage « Tenir, douleur chronique et réinvention de soi ». C'est aux éditions Métellier. Vous avez déjà consacré d'ailleurs deux ouvrages à cette question en 95 et 2010. Serge Perrault, vous êtes directeur du Centre de la douleur à l'hôpital Cochin-Hôtel-Dieu et président de la Société française d'études et de traitement de la douleur, avec donc les messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. David Le Breton, alors je le disais, vous avez mené déjà plusieurs recherches sur ce sujet. Pourquoi est-ce que la douleur revient de façon récurrente dans votre travail de sociologie ?
Oh, alors, au départ, c'est parce que c'était évidemment une étude sociologique, anthropologique absolument passionnante de comprendre comment un événement aussi intime et qu'on aurait plutôt tendance à associer uniquement au biologique est en même temps totalement façonné par la culture, par l'appartenance sociale, par l'histoire et puis par les histoires de vie. Donc, c'était une sorte d'analyseur finalement de ce que l'anthropologie peut pénétrer au plus intime de nos expériences. Et dans le premier, dans Anthropologie de la douleur, j'avais essayé justement de travailler sur la construction sociale et culturelle de la douleur, et puis de voir également comment chacun, dans sa singularité, nous nous réapproprions la culture et le lien social à travers lequel nous vivons. Et puis pour expérience de la douleur, je m'étais plutôt attaché à la somme de souffrance qui peut être associée à une expérience douloureuse. J'avais pointé que la douleur subite, d'ailleurs qu'on la rencontre dans la douleur chronique, la douleur subie, elle nous fait violence, elle nous écrase, elle nous dépersonnalise. En revanche, quand elle est choisie, comme par exemple dans les activités physique et sportive, dans le tatouage, dans les pratiques de suspension, enfin dans plein d'autres choses comme ça. Paradoxalement, elle nous enrichit d'une certaine manière, elle nous donne un sens de nos limites. Et puis j'avais également pointé dans ce même livre le paradoxe aussi d'une douleur qui protège. Là, c'est plutôt les attaques au corps des adolescentes, les scarifications, c'est-à-dire jouer la douleur que je décide moi-même contre une souffrance qui est dans ma vie et sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Et finalement, donc, il me restait une sorte de chapitre à traiter en profondeur. C'était vivre avec une douleur permanente qui est là depuis plus de 6 mois, alors qu'il peut être évidemment une gêne, comme je crois des millions d'entre, même des centaines de millions de gens à travers la planète ont des maux de dos, par exemple, qui ne les empêchent pas vraiment de vivre. Mais par contre, parfois, la douleur chronique peut être absolument ravageuse, destructrice. Elle détruit la vie complètement. Donc j'ai essayé de comprendre comment on se débrouille finalement de sa douleur chronique.
Et quelle méthode est-ce que vous avez adoptée alors pour ça cette fois-ci ?
Alors donc il y a toujours évidemment l'observation, parce que depuis 1995, de temps en temps j'assiste à des consultations de douleur, des centres de la douleur, notamment à Strasbourg. Et puis je rencontre évidemment énormément de médecins. Ça fait une éternité que je suis un peu un compagnon de route, que je suis beaucoup invité avec eux dans les colloques, dans les congrès ou parfois dans les hôpitaux pour donner le point de vue des sciences humaines et sociales. Et puis au-delà, donc, il y a 150 entretiens, hein, puisque sur mes crédits de recherche, j'ai pu embaucher un post-doc, qui est Jocelyn Lachance, qui avait fait sa thèse avec moi, qui fait un très très beau travail d'ailleurs aussi sur l'adolescence. Et puis j'ai pu financer la première année de thèse d'une doctorante qui travaille sur la fibromyalgie, une doctorante italienne qui est en co-tutelle avec l'université de Perugia et avec moi donc à Strasbourg. Tous les deux, ils m'ont fait 100 entretiens, et moi j'en avais déjà une cinquantaine que j'avais recueillie au fil des années. Et donc le livre est une sorte d'analyse très méthodique de tous les témoignages recueillis.
Serge Perrault, David Le Breton, écrit que la douleur est à la fois totalement physique et totalement psychique en ce qu'elle mobilise le corps et le sens de manière indissociable. Vous partagez ce point de vue ?
Bien sûr, tout à fait. On est toujours ravis d'entendre David Le Breton, qu'on entend depuis de nombreuses années, qui vient à nos congrès. Et je pense que le regard des sciences humaines, de l'anthropologie, est pour nous très fécond. Et je dirais qu'effectivement, la douleur, c'est dans une globalité. Il y a plusieurs éléments dans la douleur. Il y a la souffrance. Et pour moi, pour les différencier, je pose la question tout simplement au patient. Combien vous avez mal ? Ça, c'est la douleur. Combien vous êtes mal, ça c'est la souffrance. Oui. Je dirais que d'une façon assez simple. Après, bien sûr, on peut aller plus loin. Et pour les patients douloureux, il y a plusieurs problématiques que David Le Breton a plusieurs fois donc mis en avant dans ses livres. La première chose, c'est, je dirais, la question du doute, l'ombre du doute. Ces patients ont-ils vraiment mal ? Donc, par rapport à ce doute, le besoin de reconnaissance, d'être reconnu comme douloureux. Ensuite, je dirais, c'est une expérience qui, effectivement, va détruire. C'est une expérience aussi de l'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi, moi, on peut pas me soigner? Voilà. Et puis, c'est aussi une expérience de la quête du sens. Et David Le Breton parlait de ces différents types de douleurs. Je dirais que quand une douleur a du sens, c'est déjà plus facile de la supporter. Une douleur qui va être subie, qui va être donc qui arrive sans qu'on comprenne, eh bien, il n'y a pas de sens. Et souvent, les patients, leur quête, c'est aussi entre la reconnaissance et le besoin de sens.
Oui, avec évidemment le corps médical qui doit pouvoir répondre justement à cette demande.
Oui, et qui nous répond.
Face à cette expérience extrêmement intime aussi, avec toute la subjectivité qu'il y a aussi autour de la douleur.
Exactement, et le corps médical a du mal avec ça. Le corps médical scinde souvent le corps et l'esprit. Et ça, c'est à mon avis une erreur. Et puis le corps médical met du sens parfois là où il n'y en a pas. Et inversement, je dirais, dit qu'il y a du non-sens alors que les patients en cherchent. Donc je dirais que nous, notre rôle médecin de la douleur, c'est aussi d'aider nos collègues à voir la douleur autrement, à considérer les patients autrement, et tel que les voit David Le Breton, on est tout à fait en phase avec sa vision.
David Le Breton, donner du sens à la douleur, vous dites faire la narration au fond de cette histoire douloureuse, ça c'est très important pour la personne.
C'est répondre à la question, que signifie pour moi ma douleur, d'où elle vient dans mon enfance, dans mon histoire, à quel moment est-ce que j'ai commencé à la ressentir? Alors beaucoup de patients évidemment mettent en lien un stress, ce qu'ils appellent le stress, avec leur douleur. Alors le stress, on s'aperçoit que ça recouvre énormément de significations. Ce sont souvent des enfants battus, des enfants mal aimés, des enfants des jeunes hommes ou femmes qui ont perdu des proches dans leur enfance. C'est plutôt, ça ne veut pas dire évidemment que le sens précis, enfin, la cause entre guillemets, on n'est pas dans la cause, on est vraiment dans le sens, mais en tous les cas, c'est la manière pour l'individu de se réapproprier une expérience pour qu'elle ne lui échappe pas. Voilà une manière de dire, c'est sans doute à ce moment-là que c'est s'est cristallisé en moi une zone de fragilité qui a abouti 20 ans, 30 ans après à la souffrance, à la douleur. Il y a aussi quand même un point que vous rencontrez sûrement souvent dans vos consultations, ce sont les abus sexuels, les incestes, etc., qui, on a l'impression que ça ouvre des espèces de plis, de zones, de fractures, ces fractures d'enfance.
Ça veut dire quoi? Que derrière ces douleurs chroniques, d'autres douleurs sont là aussi, tapis?
Oui. Faut pas systématiser, mais dans bon nombre de cas, effectivement, il y a une autre douleur qui est tapis, une douleur d'enfance, et comme si la personne avait emmagasiné en elle un immense cri qui va se déployer 20 ans, 30 ans après, une manière de dire, voyez, je souffre, et parfois on comprend pas que c'est à cause, effectivement, par exemple, d'un abus sexuel ou d'une maltraitance ou autre. Dans d'autres cas, non, les séquelles sont liées à un accident de voiture, à une pathologie.
Serge Perrault.
Oui, c'est la question du traumatisme. Alors, dans un certain nombre de cas, on retrouve un traumatisme, mais il faut faire attention, hein, parce que là aussi, on peut avoir des travers chez certains médecins qui vont rapidement, dans une dimension psychosomatique, dire bah, finalement, c'est psychologique.
Vous citez des exemples.
Donc attention aussi à cette dimension psychosomatique, qui est une façon aussi d'éluder rapidement la question et de renvoyer les malades à un côté psy, qui finalement, à mon avis, ne résume pas du tout les choses.
Il y a l'exemple d'un dermatologue, justement, qui est cité dans votre livre. Et puis, c'est presque une accusation, d'ailleurs, du patient, hein, sur sa propre douleur. C'est vous qui êtes responsable, c'est extrêmement lourd à porter.
Exactement.
Ça ajoute à la souffrance, finalement, du patient, de ne pas être cru, le médecin a l'air de penser que c'est le patient a ça dans une sorte d'imaginaire. Quand il dit c'est psychologique, c'est une manière d'ailleurs de d'éjecter en quelque sorte. Dire ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas, je n'aurai jamais réponse à votre question.
Il y a un mot que je n'aime pas du tout, c'est le mot psychosomatique. Parce que pour beaucoup de médecins, c'est une façon de dire la cause est psychologique et je me décharge de ça. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Allez, on écoute l'extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur France Culture et qui prolonge justement cette discussion. David Le Breton, c'était en 2013, réalisé à l'hôpital Bichat à Paris, sur le travail de l'équipe interdisciplinaire de l'unité douleur et sur les patients qui viennent justement consulter.
La vie de famille, eh bien, c'est relativement difficile parce que les gens ont un regard totalement, j'allais dire, négatif. Pour ma part, mon mari est parti, voilà, tout simplement. En disant, j'en ai assez de tes douleurs, c'est dans ta tête. Comme d'ailleurs, cette remarque peut provenir aussi du corps médical. Donc on va chercher des raisons psychologiques, on va chercher des raisons somatiques, des raisons au niveau de la dépression nerveuse. Alors beaucoup pensent qu'on est dans cet état-là parce qu'on commence par une dépression nerveuse et qu'ensuite ça engendre une espèce de léthargie. Mais en fait, c'est l'existence de ces douleurs continues, de ce rythme de vie un peu bâtard qui fait que... C'est pas généralisé, mais il y a un risque de dépression comme conséquence.
Serge Perrault, les risques sont réels entre la dépression et la douleur, justement?
Alors oui, il y a une détresse psychologique qui accompagne la douleur. Toute la question, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Je dirais que finalement, c'est une question que nous, on évite de se poser. On dit, chez les patients qui ont une douleur, qui ont associé à ça des éléments anxieux ou dépressifs, et on va prendre le patient dans sa globalité, en évitant justement de chercher une cause, une conséquence. On soigne le patient dans son histoire, et comme le dit David Le Breton, c'est le patient qui va nous donner son histoire, son interprétation. On va construire avec lui quelque chose qui va être pertinent pour l'aider.
Avec David Le Breton, on le disait, toute la subjectivité autour de l'histoire personnelle, justement, et de ses ressentis de la douleur, et surtout, on l'entendait dans ce témoignage, toute la difficulté à communiquer à l'entourage. Oui. L'objectivité, c'est très compliqué dans ce domaine.
Oui, le témoignage de cette femme, d'ailleurs, était très émouvant, parce que la souffrance, elle était non seulement dans sa parole, mais dans sa voix, dans le rythme de sa voix, etc. Manifestement, elle est cassée par ce qu'elle est en train de vivre. Et puis en plus, elle nous dit que sa douleur douleur a une résonance sur toute sa vie relationnelle. C'est-à-dire son mari est parti. Mais on peut penser effectivement que sa sexualité, sa vie quotidienne avec les enfants, la manière de s'occuper finalement de la maison, d'être présente aussi en tant qu'épouse, tout ça, ça a dû pas mal être démoli aussi par la douleur. Et puis au-delà encore, il y a sans doute peut-être aussi son univers professionnel qui a été cassé, parce qu'on a beaucoup de mal évidemment à travailler quand on a mal. Et puis on a du mal aussi à être cru par ses collègues, par les responsables de l'entreprise où on travaille. Ou alors il faut trouver des aménagements, mais c'est l'objet de négociations. Il y a certains collègues, j'en parle aussi dans le livre, qui acceptent d'ailleurs de se décharger, de décharger la personne douloureuse d'une part de son boulot. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas possible, tu nous rajoutes du travail, c'est pas, on peut pas vivre dans ces conditions-là. Donc il faut assumer en même temps tout un poids social pas seulement la déchirure de soi.
C'est vrai. Ça revient beaucoup dans les témoignages de vos patients, Serge Perrault, justement, cette complexité de l'entourage, de faire comprendre sa douleur et de la faire supporter aussi aux autres, d'une certaine manière.
Tout à fait. Il nous arrive de recevoir les patients avec leur entourage, leur famille, leurs enfants, leurs conjoints, pour faire comprendre aussi l'importance de la reconnaissance et de construire ensemble. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux patients que la douleur a horreur du vide et que plus on va céder du terrain, plus la douleur va prendre de la place. Mm-hmm. Et donc, une de mes approches avec ces patients, c'est de reconstruire, d'aller contre la douleur, de la repousser dans un petit coin, parce que malheureusement, la douleur, souvent, on pourra pas la faire disparaître. En tout cas, reconstruire la vie pour que ce soit plus la douleur qui gère la vie des patients, mais que ce soit les patients qui reprennent leur vie en main.
Thierry demande, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce seuil des 6 mois pour qualifier la chronicité de la douleur ? C'est vraiment 6 mois ?
Alors c'est un seuil assez arbitraire. Je dirais qu'il y a des patients à partir de 3 mois qui sont dans une dimension déjà chronique où la douleur a déjà détruit beaucoup de choses. À partir de 6 mois, il est certain que la plupart des patients qui ont mal depuis 6 mois sont dans cette dimension. Mais comme on peut le savoir, ça peut être des fois plus tôt et des fois plus tard. Il y a des patients qui ont des douleurs intermittentes, qui arrivent à faire face. Et c'est qu'au bout d'un peu plus longtemps que cette douleur va prendre vraiment ce caractère chronique, c'est-à-dire qu'elle envahit toutes les dimensions de la vie. C'est ça, une douleur chronique.
Ouais. Jean-Paul nous dit, atteint d'une maladie neurodégénérative chronique, quand je vois les bien portants qui se plaignent, qui ont des états d'âme, je les envie. Peut-on dépasser ces douleurs chroniques? C'est tout l'objet justement de cet ouvrage aussi, David Le Breton, la façon de réinventer, en tout cas peut-être.
Oui, souvent d'ailleurs, pour prolonger le propos que vous venez de citer, les gens qui sont douloureux chroniques nous disent, vous ne le savez pas, mais vous vivez dans le paradis. Mmh. Voilà, je crois qu'il faut jamais oublier ça aussi. Et donc effectivement, dans le livre, j'essaie de pointer un certain nombre de stratagèmes que chacun invente pour essayer de s'en sortir. Je les ai appelés par moments des liturgies intimes. Je me souviens d'une femme, par exemple, qui, lorsqu'elle sent que sa douleur va s'accroître, qui se prépare du thé. D'autres qui vont se coucher, d'autres qui vont marcher, d'autres qui vont lire. Le tout, c'est de ne pas penser en permanence à la douleur. Parce que plus on pense à sa douleur, et plus on lui donne de l'énergie, en quelque sorte. Plus on l'investit, en quelque sorte. Donc, il faut trouver des techniques, c'est ce que j'appelle des techniques de sens, qui permettent d'aller au-delà. Pas avec la méthode Coué, n'y pensons plus, essayons de ne plus... Ça ne marchera jamais, évidemment. Mais par contre, avec des techniques de sens, bon, on connaît bien l'hypnose, on connaît la relaxation, on connaît la sophrologie, on connaît le... Bon, il y a tout un tas de techniques qui se sont développées ces dernières années et qui permettent à des patients donc d'échapper à ce tournoiement, à cette rumination de la douleur qui accroît la souffrance. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui écrivent des livres, entre parenthèses, hein, j'en cite un certain nombre, qui écrivent leur douleur. Donc là, qui établissent une narration très très précise de ce qu'ils ressentent. On peut imaginer que d'autres en font de la musique ou autre. Le tout, c'est de prendre sa douleur à bras le corps et de ne pas être hypnotisé par elle.
On y revient dans un instant avec vous, Serge Perrault, évidemment, pour essayer de trouver les clés pour dépasser justement la douleur. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens également sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Thank you. Soothing avec Laura Marling sur France Inter et dans La Tête au Carré.
Je vis avec un homme couché, cloué au lit par la douleur, allongé dans son fauteuil avant et après la migraine par des fatigues écrasantes, et quelqu'un qui est présent-absent dans cette maison. Il faut attendre que la migraine passe, il faut faire du silence, et ça fait quand même 8 ans que ça dure. Pour les enfants, je pense que c'est difficile aussi d'avoir un papa couché. Lorsqu'il attrape cette migraine, lorsqu'il est mal, son visage gonfle, il porte une espèce de masque et il ne communique plus. Nous, on aimait bien le rire, on aimait bien les copains, on avait fait table ouverte. Et puis, cette migraine nous a coupé des amis qui n'ont pas compris ce qui se passait.
Voilà, extrait de ce documentaire si dur, La douleur, qui avait été diffusé en 1997, signé Caroline Philibert, David Le Breton et Serge Perrou. Ben, un commentaire quand même aussi là, parce que c'est du côté de l'entourage et de la famille. Comment on vit aussi une douleur qui, visiblement, prend de la place dans toute la sphère familiale.
Oui, là on voit bien comment la douleur dépersonnalise, comment elle rend la personne méconnaissable à elle-même. Il y a toute douleur, de toute façon, métamorphose l'identité, pour le meilleur ou pour le pire. Elle peut le faire pour le meilleur, hein, par exemple dans les rites d'initiation des sociétés traditionnelles ou quand la douleur est choisie. Mais là, dans ce contexte d'une douleur subie et en plus qui se chronicise, il y a vraiment une dégradation du sentiment de soi, une déchirure de l'identité. Et cette femme dit aussi sa souffrance.
Absolument.
Elle aimait la fête, elle aimait sortir. Et puis finalement, elle se retrouve aujourd'hui avec un homme qui est abîmé, profondément abîmé par sa douleur. Et puis en même temps, ça résonne également sur les enfants.
Et elle a, on sent aussi parfois l'incompréhension, voire l'agacement aussi dans le milieu professionnel. Ça peut être le cas aussi de la part d'un collègue.
Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est le problème d'une douleur qui est invisible, évidemment, qui ne porte pas un drapeau. Il y a beaucoup de gens que j'ai interrogés qui disent au moins quand on a un bras fracturé ou quand on a une hémorragie, tout le monde le voit. Alors que là, qui nous dit que tu as vraiment aussi mal que tu le dis? On a souvent tendance donc à penser que les gens en font trop, qu'ils exagèrent leur douleur, etc. Bon, là, dans le témoignage que vient d'entendre, non. Je crois qu'on est vraiment confronté à une situation assez tragique.
Serge Perrault.
Alors effectivement, la douleur détruit, hein, elle détruit la personne, elle détruit le réseau social, le réseau affectif, le réseau familial. Et donc nous, dans les centres de la douleur, c'est vraiment une de nos approches, hein, c'est-à-dire de voir le patient dans son contexte et souvent de le convoquer avec son entourage pour travailler ça. Mmh. Et puis, on en parlait tout à l'heure, aussi faire ressortir la dimension créatrice de chacun. Je dirais que se sortir de la douleur, c'est faire revenir aussi la créativité. parlé tout à l'heure de différentes techniques. Par exemple, une technique que nous avons, nous, c'est l'éducation thérapeutique. Alors, c'est un mot un peu sévère, mais c'est surtout dire qu'on va mettre ensemble des patients avec leur expérience, qui vont partager cette expérience dans le pire, mais aussi dans le meilleur. Et chacun a un peu ses solutions. Et se trouver non isolé, c'est-à-dire voir qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, eh bien, nous, dans notre expérience du centre de la douleur, c'est un élément essentiel. Quand d'autres personnes vous disent ce que vous aussi vous ressentez et que vous pouvez comme ça vous appuyer sur une expérience partagée, avec des fois des éléments positifs, eh bien, c'est déjà un départ, parce que finalement, la personne douloureuse est très isolée. Là, on voit cet homme qui est allongé, qui est isolé dans sa famille, dans un muret. C'est comme une prison. Et eh bien, tout d'un coup, ces groupes de personnes, ça donne de l'espoir. Et ça permet aussi d'imaginer, d'inventer des choses.
David Le Breton.
Oui, ça permet effectivement d'alléger sa souffrance à travers le partage, à travers également le témoignage de ce qui a marché pour l'un, de ce qui a marché pour l'autre, de ce qui ne fonctionne pas du tout, au contraire. Les associations, d'ailleurs, je crois que vous faites un travail formidable là dans le centre de la douleur, mais vous savez aussi qu'il y a des associations, et beaucoup de patients disent combien les associations les ont aidés à aller voir les médecins qui sont vraiment efficaces sur les pathologies qui les traversent. Également, il y a un partage des techniques qui marchent pour les patients qui sont atteints de telle ou telle pathologie. Donc les associations sont souvent vécues comme des espèces de miracles qui vous arrachent en effet à la solitude, qui vous arrachent à la souffrance et qui redonnent du sens à la vie. Parce que beaucoup de ces patients s'impliquent du coup dans l'association et puis veulent faire partager ce qu'ils ont vécu eux-mêmes à d'autres. Voilà, ça relance le sens de la vie.
Ouais. Iris nous dit, j'ai toujours été interloquée lors des consultations médicales quand on nous demande de situer notre douleur physique sur une échelle de 1 à 10. Ben, c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure, hein, Serge Perrault.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, ça peut aider, je dirais que dans une douleur aiguë, c'est assez utile. Quand vous avez une fracture, quand vous sortez du bloc opératoire, que vous venez d'être opéré, on sait que la consommation de morphine pour soulager cette douleur, elle est assez corrélée à cette intensité, à ce chiffre. Dans la douleur chronique, ça ne veut rien dire. Il y a plein d'articles, d'études qui montrent que cette évaluation en intensité dans le chronique n'a aucune valeur. Moi, je l'utilise plus pour essayer de faire comprendre aux patients qu'on va traiter aussi leur douleur, mais aussi leur souffrance, et de montrer « j'ai mal, je suis mal », c'est deux choses différentes qui sont liées. C'est plutôt pour jouer autour de ça, mais j'avoue que j'apprends maintenant à mes étudiants n'évaluez plus la douleur chronique sur une intensité de 0 à 10, ça n'a aucune valeur.
Alors, David Le Breton, justement, entre la douleur aiguë et la douleur chronique, évidemment, il y a la fin, la perspective qui n'est pas là dans le cadre de la douleur chronique, en tout cas.
Oui, on sait que la douleur aiguë va durer quelques heures, quelques jours, au pire quelques semaines, et puis qu'elle va s'effacer tout doucement. Alors que là, la douleur chronique, elle nous enferme dans une vie limitée, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et quand la douleur dure depuis des mois, depuis des années, parfois il y a aussi la terreur de l'abîme qui... Est-ce qu'un jour, ça ne va pas exploser encore pire que l'horreur que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a en effet cette absence de perspective dans la douleur chronique, alors que la douleur aiguë, non, on sait qu'on va s'en sortir dans pas longtemps. Et puis les médicaments, d'ailleurs, les antalgiques sont très efficaces.
Mais je dirais qu'il faut là justement avoir une autre approche. Oui. Alors souvent les patients disent « mais finalement je vais jamais m'en sortir ». Je dirais que par exemple, il faut prendre des exemples comme la migraine. Oui. L'idée, ce n'est pas que les gens n'aient plus mal, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de moments où on n'est plus mal.
Oui.
Donc j'explique aux patients que je leur donne des perspectives. Je dis, on ne va pas stopper la douleur, mais on va créer des moments sans douleur et faire en sorte que ces moments soient de plus en plus prolongés. Et surtout aider aussi les patients à ces moments sans douleur. Parce que quelqu'un qui a des douleurs depuis des années, qui tout d'un coup se retrouve sans douleur, ben ça peut être aussi très perturbant.
Très déstabilisant.
Très déstabilisant, parce que la douleur, on sait ce que c'est, mais la non-douleur, ben tout d'un coup, ça nous met aussi dans quelque chose d'assez perturbant.
Maud demande justement, à quand la disponibilité en France du Sativex, médicament antidouleur puissant ?
Alors le Sativex, c'est du cannabis synthétique. Je crois qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Effectivement, quand on a mal, on est à la recherche d'un médicament efficace, puissant. Je dirais que la plupart des études sont quand même assez décevantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le Sativex à disposition, mais je dirais qu'il faut aussi modérer l'enthousiasme et les attentes autour de ce médicament. Les études sont surtout intéressantes dans certaines douleurs, des douleurs de la sclérose en plaques, dans les douleurs neuropathiques, dans les douleurs articulaires, c'est très peu efficace. Il y a des effets indésirables qui ne sont pas négligeables. Et je dirais que malheureusement, pour l'instant, les perspectives de nouveaux médicaments sont faibles. donc pourquoi pas le Sativex, sans en attendre des miracles, en sachant malgré tout qu'on nous supprime des médicaments qui, eux, étaient tout à fait efficaces, comme le dextropropoxyphène, le Diantalvic, comme le Rivotril. Donc on se bat, nous aussi, pour garder les médicaments anciens qui étaient efficaces et pas penser à des chimères telles que le Sativex.
Pourquoi le cannabis ou le chanvre, qui a des principes actifs, ne sont pas utilisés pour lutter contre la douleur?
Parce qu'ils ont une efficacité modeste. Malheureusement, on aimerait bien que ce soit très efficace, mais les études sont plutôt décevantes. Et puis parce qu'ils sont aussi associés à des effets indésirables à long terme. Quand on les prend en chronique, il y a des effets sur le système nerveux, sur la mémoire, sur l'humeur. C'est pas des médicaments anodins du tout.
Sur la façon de supporter la douleur, là encore, David Le Breton, vous dites aussi à quel point finalement il y a une certaine hérédité, en tout cas dans la façon de vivre aussi cette douleur, et à quel point l'environnement peut jouer aussi.
Ah bah là, ce serait une hérédité dans un sens plutôt métaphorique, parce que c'est le fait que nous sommes influencés par le social, par le culturel. Ouais. Alors par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'enfants qui grandissent avec des parents ou des proches qui sont des douloureux chroniques et qu'ils verront pendant toute leur enfance pliés en deux ou avec des migraines, avec des maux de ventre ou autre. Et beaucoup d'études ont montré qu'il y avait une corrélation entre les douleurs chroniques ultérieures de ces enfants, enfin devenus adultes, avec le fait qu'ils ont appris finalement une certaine attitude à l'égard du monde. Une attitude aussi d'ailleurs plaintive et autre. Mais on n'est pas du tout dans une dimension d'hérédité génétique.
Oui,
ou
bien sûr.
C'est ce que j'appelle plutôt la contagion du sens. C'est-à-dire l'identification à des figures proches et puis finalement une sorte de mode d'emploi quand on est mal dans sa peau. Quand on est mal dans sa vie, et bien finalement on se replie sur des anciennes attitudes qu'on a vues dans toute son enfance et qui permettent de donner corps à la plainte en quelque sorte.
Boris sur Twitter nous dit ceci, peut-être pour vous Serge Perrault, la douleur c'est un produit du système nerveux, est-ce qu'on peut pas le fermer comme on ferme les yeux pour ne plus voir, si c'était aussi simple que ça?
Alors je dirais qu'en aigu tout à fait, hein. C'est ce que fait l'anesthésie, c'est ce qu'on fait dans la douleur aiguë, donc on ferme ce système-là. Malheureusement en chronique c'est tellement compliqué.
Alors pourquoi justement?
Parce que en chronique le système nerveux dans sa globalité il est activé. Il est activé dans le cerveau, dans la moelle épinière, en périphérie.
Donc ça ferme. Tout,
donc on pourrait faire une anesthésie, hein, voilà, mais il faut quand même fonctionner. Donc si on ferme tout, on n'est pas bien. Ouais. Donc la difficulté, c'est dans la douleur chronique, de stopper ces mécanismes diffus sans avoir des effets indésirables. Parce que des médicaments contre la douleur, on en a, mais ils sont souvent mal supportés parce qu'ils atteignent les fonctions, la cognition... donc beaucoup de fonctions qui nous sont nécessaires pour fonctionner toute la journée.
On a une zone de la douleur dans le cerveau ou c'est plus complexe que ça?
C'est beaucoup plus complexe. On a plusieurs zones. On a une zone initiale qui est le thalamus qui nous permet de savoir où on a mal, combien on a mal. Ça, c'est vraiment l'intensité. Mais après, il y a des zones qui sont plus impactées par les conséquences psychologiques, etc. Puis il y a surtout des zones qui sont impactées par l'attention, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à sa douleur. Le cortex singulaire antérieur, c'est plus je porte attention à ma douleur, plus je vais avoir mal. Et il y a des techniques à l'heure actuelle de modulation de ces zones du cerveau qui visent à les réguler pour qu'on porte moins d'attention à sa douleur, ce qui permettrait d'avoir moins de douleur.
David Le Breton, Marie nous dit ceci, merci de vos propos, je n'ai même plus envie de voir les médecins tellement je ne me sens pas écouté, pas respecté, je souffre depuis 4 ans, pour autant j'ai de la joie au fond de moi, mais cette douleur physique me grignote. Ce que vous réclamez aussi, c'est une vraie médecine de la douleur au fond?
Oui, alors c'est compliqué évidemment de parler de la médecine au singulier, parce qu'il y a autant de médecine qu'il y a de médecins finalement. Je pense que la médecine est aussi un art, qu'elle implique des connaissances, elle implique évidemment des techniques, un savoir-faire, elle implique aussi fondamentalement un savoir-être, c'est-à-dire un engagement du médecin, du thérapeute à vouloir soulager son patient. Je crois que très souvent on est déçu par des médecins dont on a l'impression qu'ils ne nous écoutent absolument pas. Vous commencez à leur expliquer ce que vous ressentez, ils vous disent non, ça va, j'ai compris, ils sont en train de regarder l'examen médical ou la radiographie, ils regardent pas votre visage, c'est évidemment sur votre visage que se lit aussi votre douleur, et puis vous voulez témoigner de ce que vous ressentez. Ça c'est très mauvais, et la médecine appelle ça d'ailleurs l'effet placebo ou l'effet nocebo, justement quand on a l'impression de ne tellement pas être reconnu par le médecin que jamais ce qu'il nous dira marchera. L'effet placebo, c'est justement cette attention, cette écoute, cette empathie qui à mon avis va potentialiser les médicaments ou les soins que le médecin va prescrire. Alors il faut en effet une médecine de la douleur qui soit extrêmement attentive. Moi je dirais même une médecine de l'extrême singularité, c'est-à-dire qui chemine avec le patient, un peu comme un accompagnement. J'aime bien l'idée d'un accompagnement et pas d'une relation un peu hiérarchique entre un médecin et un patient, mais un accompagnement avec donc toute l'amitié aussi, la filia d'Aristote, si on veut le dire d'une autre manière, qui soit présente.
Serge Perrault, alors
je profite justement de cette conclusion pour dire que je milite aussi pour une médecine de la douleur. Il n'existe pas à l'heure actuelle de spécialité de médecine de la douleur. Or, à mon sens, c'est essentiel. Si les patients veulent être bien soignés, on milite pour ça. Pour l'instant, le ministère ne nous écoute pas. On considère que c'est une surspécialité accessoire. Vous m'avez introduit comme rhumatologue, mais je suis surtout médecin de la douleur. Je suis spécialiste de la douleur. Et pour moi, c'est une vraie spécialité avec un corpus scientifique, un corpus clinique. Et on milite pour ça, pour être reconnu comme une spécialité, pour aussi défendre les structures de la douleur qui actuellement sont en danger. À l'heure actuelle, beaucoup de structures de la douleur risquent de fermer, et donc les patients risquent d'en subir les conséquences. Donc pour nous, la médecine de la douleur doit être soutenue, encouragée au plan scientifique, au plan clinique, au plan structurel et organisationnel.
Bon, ben, je crois que le message est bien passé.
Hein? J'espère.
on a entendu vos propos. David Le Breton, vous allez poursuivre le travail ou au fond cette trilogie se referme avec ce livre Tenir chez Métellier?
C'est une belle question, mais non, je crois que pour l'instant j'arrête. Je pense que j'ai répondu en tous les cas à toutes les questions qui me hantaient depuis 95 finalement. Et puis voilà, j'espère que je vais continuer à travailler avec des médecins comme Serge Perrault ou d'autres.
Ouais. Alors sur quoi vous allez travailler maintenant? Parce que tous vos livres sont toujours intéressants dans des domaines très hétéroclites.
Et bien, comme souvent après avoir travaillé sur des sujets douloureux, je reviens à des sujets beaucoup plus paisibles et mon prochain livre sera plutôt une anthropologie du rire.
Mais donc,
mais dans le prolongement d'une anthropologie du corps. Ce ne sera pas du tout une anthropologie de l'humour ou du comique, ce sera plutôt les usages du rire, finalement, dans la vie courante. Parfois le rire qui n'est pas du tout associé au comique.
On prend note alors et on se donne rendez-vous pour la sortie. En attendant, Tenir, douleur chronique et réinvention de soi, c'est aux éditions Métellier et vous en êtes l'auteur, David Le Breton. Merci également à vous Serge Perrault d'être venu aujourd'hui dans cette Tête au Carré. Merci beaucoup aux éditeurs pour les nombreux messages.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous vous êtes intéressé cette semaine à l'impact de la pauvreté sur les cancers.
Bah oui Mathieu, car une équipe française vient de publier une très belle étude dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire sur le lien entre l'environnement socio-économique et l'incidence des cancers. Et ce qui fait une belle étude, c'est avant tout la qualité de ces données et le réseau français des registres des cancers qui couvre 20% de la population a fourni des chiffres précis sur les cancers diagnostiqués en 2008 et 2009. Les 190 000 cas de cancers diagnostiqués pendant ces deux ans ont été croisés avec les données socio-économiques locales, c'est-à-dire le niveau de richesse ou de pauvreté de la commune où résidait la maladie, ou le malade plutôt, grâce aux données du recensement de 2007.
Et alors, qui s'en sort le mieux, Dominique? Est-ce que ce sont les riches ou les pauvres?
Eh bien, c'est pas si tranché. Dans l'ensemble, il vaut clairement mieux être riche que pauvre. Les cancers de la bouche, de la gorge, du poumon et de l'œsophage sont une fois et demie plus nombreux chez les pauvres que chez les plus riches. C'est un petit peu moins net pour les cancers de la vessie, l'estomac et du foie. Mais, et là il y a un mais, l'équipe du professeur Guy Launoy a constaté que d'autres cancers voyaient leur fréquence augmenter chez les plus riches. C'est le cas pour les cancers de la prostate, du sein, du testicule, qui sont des cancers connus comme hormonodépendants.
Et comment on explique ça alors?
Eh bien, si je raisonnais comme certains écologistes, je vous affirmerais sans sourciller que l'euro est un perturbateur endocrinien. Mais heureusement, nous sommes à la Tête au Carré, rompus au piège des stats à la con, et nous savons qu'un lien statistique n'est pas synonyme d'un lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que les gens meurent souvent dans leur lit que ce sont les lits qui sont dangereux.
Il y avait longtemps, il y avait longtemps.
Voilà, on ne peut pas résister.
Bon. Okay, ouais.
Alors, les auteurs de l'étude se gardent bien de ce type de raccourci, mais ils émettent des hypothèses qui paraissent pleines de bon sens. Les cancers du sein et de la prostate sont connus pour être l'objet de dépistages intempestifs, on en parle souvent ici, auxquels les riches se prêtent plus volontiers. Et c'est ce zèle préventif et le surdiagnostic qui en résulte qui pourrait être à l'origine de ce résultat surprenant.
Et en pratique, qu'est-ce que proposent les auteurs alors?
L'idéal, comme vous en doutez, c'est bien sûr que les pauvres deviennent riches. Hein, ça, c'est ce qu'ils suggèrent à demi-mot.
Merci.
Et il faut remarquer que 15 000 cancers annuels pourraient ainsi être évités. Mais l'étude est incapable de nous dire sous quel sous-facteur nous pourrions agir utilement, en dehors bien sûr du tabagisme et de l'alcoolisme. Est-ce la nourriture, la pollution, le bruit, la dureté du travail ou tout simplement la dépression et le mal de vivre associés au chômage? Moi, je trouve que l'intérêt principal de cette étude, c'est de nous montrer que les chiffres sont toujours intéressants, mais qu'ils doivent être interprétés avec prudence. Je pense notamment aux chiffres, par exemple, affolants qu'on nous sert sur les décès attribués à la pollution, mais qui pourraient être biaisés par l'impact de la pauvreté associée à l'habitat en zone polluée. Donc c'est toujours plus compliqué que ça n'y paraît.
Merci beaucoup Dominique, et on retrouve bien sûr cette chronique à réécouter sur franceinter.fr, sur le site de la Tête au Carré, et à jeudi prochain.
À jeudi.